Et le journal vous est présenté par Antoine Denecher. Bonjour.
Bonjour. La France, une nouvelle fois attaquée par l'organisation État islamique. Un prêtre a été tué dans son église hier à Saint-Étienne-du-Rouvray en Normandie. Au-delà de l'émotion et du choc chez les catholiques et dans tout le pays, moins de 15 jours après l'attentat de Nice, des questions se posent ce matin. Pourquoi l'un des deux tueurs qui avait cherché à partir en Syrie avait-il été remis en liberté cette année? Véronique Rebérotte tentera de répondre à cette question.
Autre question dans votre journal, Antoine. Faut-il cesser de s'abriter derrière des arguties juridiques pour être impitoyable, comme le demande Nicolas Sarkozy? François Hollande répond que restreindre nos libertés n'apporterait pas d'efficacité à la lutte contre le terrorisme. Analyse de Stéphane Robert.
Et puis, va-t-il falloir s'habituer à ce genre d'attaque, cette fois-ci dans une église, dans une commune de 30 000 habitants? Eh bien oui, nous dira Alain Rodier, spécialiste du renseignement. Il parle d'une guerre de basse intensité menée par Daesh en France.
Mais l'actualité, c'est aussi la convention démocrate aux États-Unis. Bill Clinton a fait le show cette nuit pour soutenir sa femme Hillary, officiellement investie candidate à la Maison-Blanche.
Et puis en Chine, Pékin censure le journalisme indépendant en ligne, correspondance de Simon Leplâtre à Shanghai. Faire régner la terreur, créer le chaos, diviser et entraîner la France dans la guerre civile. Les objectifs de l'organisation État islamique sont connus et théorisés de longue date. Et après Charlie Hebdo, l'hypercachère, le Stade de France, le Bataclan, les policiers de Magnanville et bien sûr le 14 juillet à Nice, les terroristes cette fois-ci ont tué un prêtre. Le père Jacques Hamel, 86 ans, a été égorgé à 9h30 hier matin dans son église pendant la messe devant un couple de paroissiens et trois religieuses. Les deux tueurs qui étaient munis de couteaux et pour l'un d'eux d'une arme de poing hors d'usage ont été abattus une heure plus tard par la BRI et dans l'après-midi, cette attaque était revendiquée par l'organisation État islamique. Bonjour Véronique Rebérotte.
Bonjour.
L'un des deux terroristes n'est pas encore identifié ce matin, mais l'autre, Adel Kermiche, était récemment sorti de prison. Il portait même un bracelet électronique.
Bracelet qu'Adel Kermiche portait au moment où il était abattu hier. Le jeune homme, 19 ans, était depuis plusieurs mois assigné à résidence chez ses parents dans un quartier résidentiel de Saint-Étienne-du-Rouvray. Il avait été placé sous surveillance électronique depuis le mois de mars dernier. Mars 2016, il lui était interdit de quitter le département de Seine-Maritime. Ses papiers d'identité lui avaient été retirés. Une surveillance ordonnée par un juge d'instruction antiterroriste du tribunal de Paris, Adel Kermiche a tué alors qu'il bénéficiait de sa permission quotidienne de sortie, permission accordée entre 8h30 et 12h30 les jours de semaine. Les services de police ont rapidement identifié hier un visage familier. Depuis des mois, Adel Kermiche, fiché S par la Direction générale de la Sécurité intérieure, avait pour obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de sa ville.
Et le jeune homme était parfaitement connu des services antiterroristes.
Oui, depuis qu'il avait tenté à deux reprises de rallier la Syrie l'an passé, en 2015, une première fois via l'Allemagne, c'était en mars donc 2015, alors qu'il était encore mineur. Il était alors en possession des papiers d'identité de son frère. C'est sa famille qui avait signalé sa disparition. Il est ramené en France, mais il repart une deuxième fois un mois et demi plus tard, en mai 2015. Il est cette fois devenu majeur. Il est arrêté en Turquie sur mandat d'arrêt international dès mars 2015. Adel Kermiche est mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de préparer des attentats terroristes. Il est placé donc en détention provisoire à l'issue de sa deuxième tentative pour rejoindre la Syrie. Il bénéficie en mars 2016 d'une libération conditionnelle. C'est là qu'il est assigné à résidence sous bracelet électronique. Le parquet antiterroriste de Paris avait fait appel de cette libération, mais n'avait pas obtenu gain de cause.
Merci beaucoup Véronique Rebérotte. Cette question maintenant, peut-on prévenir ce type d'attentat? C'est très difficile pour ne pas dire impossible, répond ce matin Alain Rodier, ancien officier supérieur du renseignement, directeur adjoint du Centre français de recherche sur le renseignement.
Nous sommes dans une guerre asymétrique, ces individus sont dans une guerre clandestine. Regardez tous les pays où il y a des attentats tous les jours et personne n'en parle. Bon, je ne parle pas en Irak, on considère qu'ils sont en guerre, bon c'est normal. En Afghanistan, ils sont en guerre, c'est normal. Mais le Pakistan, c'est la même chose. Ça se développe au Bangladesh à l'heure actuelle. En Extrême-Orient, on en parle moins. Un otage occidental vient d'être encore assassiné il y a quelques jours par le groupe Abu Sayyaf qui a fait allégeance à Daesh. Et les populations locales continuent à vivre. Nous, qui vivions dans un confort et une béatitude, eh bien, on est en train de doucettement basculer dans un autre état, que je qualifierais de guerre basse intensité. Nous avons un certain nombre de volontaires parmi les salafistes quiétistes ou ceux qui ne le disent pas parce qu'ils appliquent la taqiya, c'est-à-dire l'art de la dissimulation, mais nous avons un certain nombre d'individus qui sont prêts à passer à l'acte, mais qui n'y arrivent pas, quoi, qui passent pas à l'acte. Mais le problème, c'est quand ils commencent à avoir plusieurs passages à l'acte, eh bien, ceux qui osaient pas trop, eh bien, ils se lancent, quoi. Malheureusement, ça va se poursuivre.
Alain Rodier, interrogé par Cécile de Kervas-Doué.
8h05 sur France Culture, la suite de votre journal. Antoine de Necher, après quasiment deux semaines de polémique après l'attentat de Nice, la classe politique s'est une nouvelle fois déchirée hier.
Alors même si un Jean-Pierre Raffarin demande de ne pas tomber dans le piège de la guerre des religions, le président du parti Les Républicains le dit, nous devons être impitoyables. Les arguties juridiques, les précautions, les prétextes à une action incomplète ne sont pas admissibles, a dit Nicolas Sarkozy. Hier soir, Stéphane Robert, François Hollande et Manuel Valls lui ont répondu.
Le chef de l'État, hier soir, a répondu sans ménagement à Nicolas Sarkozy ou encore à Marine Le Pen, qui réclament la mise en place de mesures d'exception comme l'enfermement de terroristes présumés parce que fichés par le renseignement.
Le gouvernement applique et appliquera avec la plus extrême fermeté les lois que nous avons fait voter et qui donnent à la justice, aux préfets, aux forces de l'ordre et aux services de renseignement la capacité d'agir. Mais je le dis clairement, restreindre nos libertés, déroger à nos règles constitutionnelles n'apporterait pas d'efficacité dans la lutte contre le terrorisme et affaiblirait à coup sûr la cohésion si précieuse de notre nation.
François Hollande ne s'est pas exprimé plus de quelques minutes hier soir. C'est le Premier ministre Manuel Valls qui s'est chargé de faire dans le journal de 20h sur TF1 la pédagogie du message présidentiel. Pas question, a-t-il répété, de céder à la surenchère.
À chaque attentat, nous n'allons pas inventer une nouvelle loi. Nous n'allons pas inventer de nouveaux dispositifs. Cette guerre, elle sera longue. Les Français, ils doivent intégrer que nous sommes dans une guerre, changer leur habitude, changer nos comportements. Mais c'est avec les armes du droit. Ce n'est pas en mettant en cause notre démocratie que nous gagnerons contre le terrorisme, puisque le terrorisme veut en finir avec la démocratie et avec notre modèle.
En résumé, on ne gagne pas une guerre sans y laisser quelques plumes. Mais l'important, ce sont les valeurs qu'on défend, disent les deux hommes. On était bien loin hier soir de la déchéance de la nationalité proposée il y a quelques mois par François Hollande pour s'attirer les bonnes grâces de la droite et de l'extrême droite, avec dans l'idée de faire l'unité nationale autour de lui et qui, au bout du compte, avait fracturé son propre camp.
Alors juste avant de présider un nouveau Conseil de défense, François Hollande reçoit depuis quelques minutes les responsables des différentes communautés religieuses. Hier soir, l'archevêque de Rouen a été reçu à l'Élysée, ému. Il a déclaré, il a cité la parole de Jésus, « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Alors les catholiques de France sont-ils dans cet état d'esprit ? Maxime Fayolle est allé à leur rencontre hier dans Paris.
Assise près d'un cierge qu'elle vient d'allumer, Marie-Cécile observe un temps de silence. Après l'annonce de la prise d'otage, elle a décidé de venir se recueillir à l'église Saint-Eustache, près des Halles, à Paris.
Il y a des martyrs même en France maintenant. Ceci étant, pour moi, la seule action que je peux faire ici, c'est prier, garder la confiance dans le cœur plus grand de l'homme. Il faut que la paix grandisse. Il y a un germe de vie et de paix qui nous est donné par le Seigneur. Gardons au moins la confiance et avançons.
Un peu plus loin, devant Notre-Dame de Paris, des militaires patrouillent devant des touristes insouciants. Philippe, lui, est résigné par tous ces attentats qui se succèdent.
On est habitué à tout maintenant. Il y a des attentats dans des synagogues. Je crois que c'est fait pour choquer les gens et je pense que ça va marquer les gens et qu'il y aura peut-être quand même un réveil de la population de se rendre compte qu'on est en guerre, quoi. Malheureusement, moi, ce que j'ai peur, c'est que ça va attiser... Bon, il va y avoir des vengeances contre des mosquées en France. Ça, c'est obligatoire, quoi. C'est triste, c'est triste.
Pour éviter la montée des tensions entre les communautés, les prêtres prônent le dialogue interreligieux. Une vertu que prône également Frédéric Our. Il travaille dans une librairie chrétienne dans le 6e arrondissement.
Je ne pense pas que la bonne réaction soit une réaction de rupture. Au contraire, il faut que nous, les chrétiens, on soit capables d'autant plus asséner la nécessité de la bonne relation entre les gens et puis de l'amour évangélique tel qu'il est prôné par Jésus-Christ. C'est ne pas surtout se recroqueviller sur soi par peur, ne pas accepter que la peur nous domine, parce que la peur va entraîner la haine de l'autre. Ça, c'est tout ce qu'on veut éviter.
Et ce dialogue apaisant est appelé depuis hier par l'ensemble des communautés religieuses.
Reportage de Maxime Fayolle. Le pape François arrive aujourd'hui en Pologne pour les JMJ et devrait s'exprimer sur cet assassinat à Saint-Étienne-du-Rouvray. Hier, le Vatican a dénoncé un crime barbare.
Presque 8h10 sur France Culture. Antoine de Necher, en pleine saison touristique, les syndicats des personnels navigants, commerciaux d'Air France lancent une grève d'une semaine à partir d'aujourd'hui.
Et ce mercredi, 13% des vols en moyenne sont annulés. Le SNPNCFO et l'UNSA-PNC dénoncent notamment le fait que leur accord collectif, qui arrive à échéance fin octobre, sera renouvelée pour une durée qui leur paraît trop courte. Mais plus généralement, Anne Lorchouin, ces personnels d'Air France ont le sentiment d'avoir beaucoup donné avec le plan d'économie Transform 2015.
Sur le papier, les grévistes critiquent d'une part un accord collectif d'une durée trop courte, 17 mois seulement, alors qu'il le souhaiterait à durée indéterminée. D'autre part, une réduction des personnels navigant sur plusieurs lignes, moyens courriers. Mais plus généralement, le climat social à Air France s'est nettement détérioré après plusieurs années de diminution des personnels. Alexandre Taugourdeau, secrétaire adjoint du syndicat national des PNC.
Depuis 3 ans, nous avons eu un plan de restructuration qui a permis à l'entreprise de faire 20% de productivité, 220 millions d'économies avec l'accord des salariés qui ont joué le jeu. On a eu 2000 suppressions d'emplois. À l'heure actuelle, l'entreprise a de bien meilleurs résultats. Et malheureusement, le seul retour à bonne fortune que nous ayons eu, c'est un nouveau plan Perform qui demandait à nouveau 17% d'économies. C'est un petit peu difficile pour les syndicats responsables que nous sommes, pour les salariés également, d'accepter ce nouveau camouflet.
Du côté de la direction, on fait valoir que la réduction des personnels envisagés concerne 1% seulement de l'activité globale des PNC et que l'aérien étant par définition soumis à des vents contraires, un accord de 17 mois est une mesure de prudence. Gilles Gâteau, le DRH d'Air France.
C'est tout à fait vrai que les PNC ont fait des efforts. Ce qui n'est pas exact, c'est qu'on demanderait des efforts supplémentaires, puisque au contraire, c'est la reconduction de l'accord existant avec en plus certaines améliorations. Cette année, pour la première fois depuis des années, a été versé un intéressement aux salariés. Un tiers des résultats positifs de la compagnie l'année dernière a été distribué aux salariés sous forme d'intéressement. Il n'y a pas des efforts supplémentaires qui sont demandés au PNC dans la période qui vient.
Quoi qu'il en soit, la grève aura bien lieu, sans pour l'instant qu'une porte de sortie ait été présentée par l'une ou l'autre des deux parties.
Merci Anne-Laure Chouin. Aux États-Unis, ça y est, elle est officiellement investie pour la présidentielle. Hillary Clinton est attendue demain à Philadelphie pour prononcer son discours. En attendant, c'est son mari Bill qui était sur la scène de la convention démocrate cette nuit. Pour l'ancien président, c'est un exercice presque rituel puisque depuis 1988, il a toujours été un orateur vedette de ce rendez-vous, Frédéric Carbone.
Quand Bill Clinton monte à la tribune après des dizaines d'orateurs, on se demande ce qu'il peut dire de différent. Dès la première phrase, on ne se pose plus la question.
In the spring of 1971, I met a girl.
Un jour du printemps 71, j'ai rencontré une fille. Ce pourrait être le début d'une comédie romantique, le roman des Clinton, et peu importe ce qui est vrai. Le meilleur conteur de la politique américaine choisit le terrain de l'intime, des petites touches, des souvenirs d'avant la Maison Blanche, pour faire passer un seul message. Moi qui la connais le mieux, je vous promets que ma femme fera bouger les choses.
For this time,
pour notre époque, Hillary est la seule capable de saisir les opportunités et de limiter les risques. Et elle reste le meilleur moteur de changement que je n'ai jamais connu. Surtout ne pas abandonner le terrain du changement à Donald Trump, jamais cité, mais qualifié de produit fabriqué. Bill Clinton, dès le début de cette campagne, a joué le rôle de lanceur d'alerte. Attention à Trump, il répond à l'insatisfaction et à la colère des Américains. Hillary Clinton ne doit donc pas apparaître comme un simple troisième mandat de Barack Obama. Ce que le président actuel ne pourra pas dire aujourd'hui, l'ancien président l'a clairement suggéré la nuit dernière.
Un reportage de Frédéric Carbone à Philadelphie pour France Culture. C'est un coup de plus porté à l'information indépendante en Chine. Les principaux sites web du pays ont reçu l'interdiction d'écrire des articles. Ils devront s'en tenir aux dépêches des agences officielles. Bref, ils n'ont plus le droit de faire de journalisme. Une étape supplémentaire donc dans le contrôle déjà très étroit des médias par Pékin, Simon Leplâtre.
Ils sont accusés d'avoir publié des informations de presse collectées et éditées par eux-mêmes, avec des conséquences particulièrement nocives. Les accusations sont portées par l'administration chinoise du cyberespace, qui n'en reste pas au mot. Les principaux portails web chinois ont reçu l'ordre de fermer leur rubrique d'actualité générale. Jusqu'ici, ils évoluaient en zone grise. Officiellement, les sites d'information uniquement en ligne ne sont pas considérés comme des médias. Leurs journalistes n'ont pas de carte de presse, ils ont le droit de compiler et d'éditer des informations provenant de sources officielles, mais pas plus. Seule exception, le sport et le divertissement, des sujets qui ne risquent pas d'embêter le pouvoir communiste. Mais l'important en Chine n'est souvent pas la loi elle-même, mais la manière plus ou moins stricte de l'appliquer. Les grands sites comme Tencent, Sohu, Sina ou NetEase, en concurrence pour s'attirer le trafic des 720 millions d'internautes chinois, avaient petit à petit développé des équipes qui produisaient des articles originaux. Quitte parfois à enquêter sur des affaires de corruption ou de violences policières et de voir leurs articles censurés. Selon un professeur de journalisme qui nous a demandé de ne pas citer son nom, le congrès du parti, qui aura lieu l'année prochaine pour renouveler le mandat des dirigeants chinois, explique sans doute la décision des autorités. Pour lui, après presque 40 ans d'ouverture politique et économique, c'est l'une des mesures les plus sérieuses de contrôle des médias par l'État.
Simon Le Plâtre à Shanghai pour France Culture. Un mot de météo, le temps aujourd'hui sera moins beau dans le nord-ouest où dominera la grisaille et l'humidité. Ce sera instable sur le relief mais ensoleillé ailleurs. Température de 19 degrés en Bretagne à 35 degrés près de la Méditerranée cet après-midi.